Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglette. Nous embarquons aujourd'hui dans les couloirs du temps pour une carte blanche. Ce sont ces épisodes consacrés à des articles écrits par des journalistes de la région mais qui n'ont pas été publiés par des médias partenaires. C'est le cas donc aujourd'hui avec un sujet paru dans le magazine Occitan Sphère et qui s'appelle « Cacher ce masque que je ne saurais voir ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marion Casanov.
Bonjour Jean.
Marion, vous êtes journaliste indépendante, native de Bordeaux. Vous êtes déjà venue à notre micro pour 3 épisodes consacrés à votre série sur les biens juifs spoliés, paru sur Slate.fr. Vous revenez cette fois pour nous emmener à nouveau faire une balade historique, mais dans les colonnes de Sphère. Avant d'aller plus loin, un mot sur ce magazine qui vient de fêter sa première année d'existence. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Marion ?
Oui, alors Sphère, c'est un trimestriel qui s'adresse aux petites communautés. Voilà, son slogan, c'est « Petites communautés, grandes histoires » et qui s'intéresse donc à chaque trimestre à une communauté de passionnés. Donc, pour avoir un exemple, le numéro 1, c'était sur les fumeurs de pipe. Ensuite, il y a eu les plongeurs sous-marins, ensuite les pèlerins et maintenant les reconstitueurs.
Alors, votre article donc s'appelle « Cacher ce masque que je ne saurais voir » et il nous entraîne à la rencontre des reconstitueurs dont vous avez parlé et de tous les obstacles qu'ils rencontrent en ce moment liés à la crise sanitaire. D'abord Marion, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces reconstitueurs ? Nous parler notamment des collectifs que vous avez rencontrés.
Oui, alors les reconstitueurs, déjà, ce sont les passionnés de reconstitution historique. Donc, ce sont ces personnes qui vont se costumer. Ne leur dites pas qu'ils se déguisent. Donc ils vont se costumer pour interpréter, rejouer par exemple un soldat de la guerre de Cent Ans. Ils vont se costumer comme un soldat napoléonien. Il n'y a pas que l'aspect des guerres aussi, ils peuvent aussi reconstituer des balles de l'époque de Versailles. Enfin, il y a un peu toutes les périodes historiques qui sont représentées. Il y a des passionnés pour toutes les périodes. Et donc ces passionnés, ils se rencontrent la plupart du temps dans des festivals où il y a beaucoup de monde. Ils font des événements devant le public pour faire découvrir cette époque, cette histoire à un public. C'est une manière un peu de vulgariser. Et donc, ces personnes que j'ai rencontrées, bah forcément, ils ont passé une année blanche. La plupart du temps, tous leurs événements, tous les festivals ont été annulés. Donc, ils n'ont pas pu se reproduire, se costumer. Tous leurs projets ont dû être reportés pour plus tard. Et donc, pour la plupart aussi, ils ont essayé de trouver des solutions pour quand même vivre, continuer à vivre de leur passion, quoi.
On va en parler un petit peu plus longuement, un peu plus tard, de ces reconstitueurs, mais ce sont bel et bien des amateurs. Vous parlez de passion, leur objectif c'est ça, c'est faire partager leur passion.
Voilà, c'est ça, ce sont des passionnés d'histoire en général. C'est parfois même plus qu'une passion parce qu'ils vont quand même très loin dans le détail. Il y a une grande partie de recherche où ils se documentent sur le moindre détail d'un costume, le moindre détail d'un événement, etc. Donc c'est presque des historiens, vraiment des historiens amateurs. Donc c'est presque aussi parfois pour certains un mode de vie. Il y a des articles où on le voit, pour certains ils vivent reconstitution, c'est leur mode de vie.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Même aux colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même aux colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Vous nous parliez de la façon dont la crise sanitaire affecte les reconstitutions. Certaines d'entre elles ont dû tout simplement être annulées, comme beaucoup de spectacles. Pour celles qui peuvent tout de même se tenir, dans quelles conditions se tiennent-elles? Et le rapport avec le public ne peut pas être le même, j'imagine.
Voilà, pour celles qui ont pu se tenir, c'est des événements qui souvent, où il y a eu beaucoup moins de public, donc tous les grands festivals, eux, forcément, n'ont pas eu lieu. Pour d'autres, ça peut être des petites représentations dans des châteaux, dans les jardins d'un château, en s'habillant, par exemple, avec des vêtements du Moyen-Âge. Et pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, on leur a demandé de porter ce costume, mais aussi un masque, de respecter des gestes barrières, donc d'être un peu loin du public. Et les reconstitueurs que j'ai pu interviewer, ils regrettaient beaucoup cet aspect de distance avec le public, de devoir porter un masque, ce qui est ce qui gâche en fait un costume. C'est vraiment anachronique d'avoir un masque chirurgical quand on est habillé comme un soldat napoléonien. Tout cet aspect de proximité avec le public et de détails historiques, de véracité historique, il était un petit peu il était passé à la trappe, malheureusement. Il y a quelques reconstitueurs aussi que j'ai eu qui ont préféré annuler plutôt que de devoir porter un masque ou de devoir respecter des gestes barrières, parce qu'ils trouvaient ça c'était le contraire de ce qu'ils voulaient faire.
Alors, il y a tout de même quelqu'un qui a eu une idée géniale pour combiner reconstitution historique et impératif sanitaire, en l'occurrence le masque que vous évoquiez à l'instant. Une idée qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont lu ou vu Au revoir là-haut, par exemple.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est un reconstitueur qui était invité pour une reconstitution au musée de la Grande Guerre à Meaux, de la reconstitution de la Première Guerre mondiale, pardon. Et donc, lui, il s'est demandé, il fallait porter des masques, et il s'est demandé comment faire pour rester quand même dans l'histoire, et il a eu une illumination. Il s'est dit, je vais faire des masques un peu façon gueule cassée, donc des masques qui rappellent ce que portaient les gueules cassées, les personnes qui étaient blessées pendant la Première Guerre mondiale, qui avaient des éclats d'obus et qui étaient complètement défigurées. Ils portaient eux-mêmes des masques qui reconstruisaient un semblant de visage, et donc lui a imité ces masques gueule cassée, il en a fait quelques-uns. Et ça a eu beaucoup de succès et il a un peu lancé une mode, et il y a d'autres reconstitueurs qui comptent le reprendre parce que ça allie gestes barrières, sécurité liée au Covid et histoire, historicité, parce que historiquement c'est correct.
Les reconstitueurs ont aussi d'autres manières, d'autres occasions de pratiquer leur passion grâce au cinéma et à la télévision en particulier, c'est ça ?
Oui, c'est ça, il y a aussi... on fait souvent appel à eux pour des documentaires historiques, donc des chaînes comme RMC Découverte, ça les arrange bien d'avoir des reconstitueurs qui ont tout le matériel avec eux et qui ont des passionnés qui savent aussi très bien, qui connaissent leur période sur le bout des doigts. Et aussi pour faire des vidéos sur des chaînes YouTube, pareil, où il faut mettre en scène un petit peu ce qui se passait à l'époque. Donc ça, au moins, c'est une partie... qu'on ne leur a pas enlevé. Ils ont pu un petit peu cette année remettre leur costume, le sortir de leur placard pour ces quelques événements-là qui ne demandent pas de public le jour même, mais qui ensuite effectivement peut être mis en vidéo devant un public. Et il y a même une association qui a fait une vidéo qui s'appelle « Souvenir, j'écris ton nom ». Ils ont eu l'idée de faire un court-métrage à l'occasion de l'armistice du 11 novembre où normalement pour l'armistice, ils font une petite... représentation, ils se mettent en costume. Cette année, il n'y a pas pu avoir d'armistice avec du public. Donc, pour pallier ce manque, cette cérémonie qui n'a pas eu lieu, ils ont fait eux-mêmes, avec leurs moyens, un petit court-métrage. Donc, c'était une manière pour eux de continuer quand même la reconstitution et puis de dire qu'ils n'ont pas rien fait pendant cette année-là, que les efforts, les costumes qu'ils avaient préparés ne sont pas restés au placard.
Marion, l'une de vos interlocutrices vous explique qu'on la prend parfois pour une royaliste tarée, ce sont ses mots. Est-ce que vous avez senti justement un discours politique chez certains d'entre eux, des motivations de cet ordre ?
Jamais. Ces personnes-là, ils sont vraiment, en tout cas pour l'article que j'ai écrit, ils sont vraiment... C'est l'histoire, leur passion, ils sont prêts à parler. Justement, cette intervenante-là, elle est passionnée par les robes d'époque et elle est prête à passer des heures en visio à parler des dernières recherches qu'elle a faites sur une robe, sur les coutures à faire pour être le plus proche de l'histoire. Mais sinon, des choses politiques, assez peu finalement. Il y a d'ailleurs un article, un très long article dans Sphère qui parle du mauvais rôle. Donc pourquoi des gens vont s'amuser à représenter par exemple des soldats nazis, etc. C'est quand même assez compliqué de jouer des soldats nazis. Et on apprend un peu dans cet article que les associations font quand même généralement très attention à qui elles embauchent, enfin, à qui elles acceptent entre guillemets. Et qu'effectivement parfois il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, qui veulent faire de la reconstitution ou qui ont des idées politiques très arrêtées. Ce qui ressort c'est que... il y a quand même un certain contrôle de ces associations qui sont quand même, pour la plupart, je pense, la grande majorité, simplement des passionnés d'histoire qui veulent revivre ces époques-là.
Et par ailleurs, ceux que vous avez rencontrés sont parfaitement intégrés socialement, ils ont des métiers tout à fait classiques, ce ne sont pas des gens qui sont marginalisés par ailleurs.
Oui, voilà, il y avait des ingénieurs informatiques, des personnes qui travaillaient dans la pub, des avocats. Voilà, c'est pas du tout des illuminés, simplement des gens qui poussent la passion, leur passion de l'histoire très très loin.
Et qui permettent à certains petits villages de vivre, ou en tout cas de survivre, hein. C'est notamment le cas pour un village des Pyrénées que vous évoquez.
Oui, le village de Montespan, la mairesse que j'ai eue me disait qu'il n'y a plus de commerce dans son village, en revanche la vie associative, elle est très active, il y avait cette association de reconstitution de la Première Guerre mondiale et d'autres associations. Quand on n'a pas de commerce, ben, il y a des habitants qui se regroupent pour essayer de faire vivre la ville avec des passions communes. Et donc il y a ces passions de reconstitution historique qui suffisent à maintenir un peu un petit village en vie. Mais c'est vrai qu'en crise sanitaire... tout l'aspect associatif disparaît parce qu'on ne peut plus se réunir. Et là, cette ville-là, par exemple, ce village-là, dans les Pyrénées, en souffrait pas mal. Then I remember my allies is expecting me. Not only that, my allies is expecting. We gotta go, gotta get the job done. Gotta start a new nation, gotta meet my son. Take the bullets out your gun, the bullets out your gun. We move undercover and we move as one. Through the night we have one shot to live another day. We cannot let a stray gunshot give us away. We will fight up close, seize the moment and stay in it. It's either that or meet the business end of a bayonet. The code word is Rochambeau, dig me?
Rochambeau!
You have your orders now, go man, go. American experiment begins with my friends all scattered to the winds. Lawrence is in South Carolina, redefining bravery. We'll never be free until we end slavery. When we finally drive the British away, Lafayette is there waiting in Chesapeake Bay. How did we know that this plan would work? We had a spy on the inside, that's right.
Hercules Mulligan!
I tell a spy on the British government. I take the measurements, information, and then I smuggle it. Huh? To my brother's revolutionary covenant. I'm running with the Sons of Liberty and I am loving it. See, that's what happens when you up against the ruffians. We in this shit now, somebody's gotta shovel it. Hercules Mulligan, I need no introduction. When you knock me down, I get the fuck back up again.
Pour ces reconstitutions, quel va être l'avenir à court terme ? Est-ce qu'elles pourraient bénéficier d'un régime particulier, leur permettant de reprendre avant les théâtres, par exemple ? On sait qu'elles ont lieu le plus souvent en plein air.
Oui, elles ont lieu le plus souvent en plein air. Il n'y a pas spécialement de choses qui sont faites pour les aider. Les festivals restent annulés jusqu'à nouvel ordre, un peu comme les festivals de musique. On peut penser qu'ils auront lieu bien plus tard dans l'été avec un public très restreint. Mais les reconstitueurs, ils sont assez mitigés. Il y en a qui pensent que cette année encore, ça va être très difficile, que tout va être annulé et que même ça va un petit peu se perdre parce que ça va un petit peu bouleverser la reconstitution. S'il faut à chaque fois porter des masques, respecter des gestes barrières pour l'année à venir, ça risque d'être compliqué. Et d'autres, au contraire, sont très optimistes et pensent qu'avec la vaccination qui arrive ou des choses comme ça, ça va bien se passer et que dans un futur très proche, ils pourront remettre leur costume, mais pour l'instant, ça reste un peu toujours une énigme, enfin une interrogation.
Un mot, Marion, sur vos impressions lors de ce reportage. Quels sentiments vous ont laissé ces reconstitueurs ?
Alors, moi, j'ai eu envie justement de mettre un costume aussi. Enfin, en les écoutant parler, ça m'a donné envie de faire autre chose de mes week-ends. Et, enfin, j'ai trouvé leur passion... c'est, la manière dont ils en parlaient, c'était vraiment passionnant. On sentait des personnes passionnées. Et aussi un autre monde, en fait. On a tous peut-être un peu rêvé une fois de vivre un jour dans la peau de quelqu'un au Moyen-Âge ou d'aller une fois dans sa vie à un bal versaillais à l'époque de Louis XIV. Et donc, bah, ça fait un petit peu rêver, je trouve. Et la plupart des reconstitueurs qui font ça, c'est un peu ça, revivre un rêve de princesse ou de chevalier ou de soldat napoléonien ou n'importe quoi. Bah, moi, ça m'a donné envie plutôt d'essayer un jour. J'aimerais bien.
Et alors, toute dernière question très personnelle. Si vous deviez essayer, vous choisiriez quelle époque ?
Moi, j'irais reconstituer un bal versaillais, clairement, parce qu'en plus, il loue des châteaux pour des événements privatifs. Tout le monde parle un peu comme à la Belle Époque. On a des costumes magnifiques, donc toute cette exubérance. Et passer une soirée dans un château privé, ça me plairait énormément.
Parfait. Merci beaucoup, Marion Cazeneuve, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre article paru dans le magazine Occitan Sphère, « Cacher ce masque que je ne saurais voir ». Je conseille d'ailleurs la lecture de votre sujet, mais plus globalement de ce magazine très qualitatif et original. Un dernier mot enfin pour dire que cet épisode est dédié à la mémoire de Joël Aubert. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.